Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Et on va maintenant continuer de parler de fraude fiscale avec un insider cette fois-ci. Bonjour Maxime Renaï.
Bonjour.
Vous avez travaillé dans la finance à Jersey et au Luxembourg et vous avez en même temps espionné vos employeurs pour le compte de la DGSE. Vous le racontez dans un livre qui s'intitule « Là où est l'argent ?». Alors peut-être pour commencer, expliquez-nous tout simplement, qu'est-ce que vous faisiez précisément sur l'île de Jersey ?
Donc en fait, je travaillais pour un cabinet d'avocats qui est toujours le plus gros cabinet d'avocats de l'île. Donc il y avait des centaines de salariés dans ce cabinet d'avocats. Et moi, je m'occupais de la partie administration, ce qu'on appelle administration de fonds. Voilà.
Donc vous gériez l'argent des autres.
Voilà. Je gérais pas, j'administrais. C'est-à-dire je faisais toute l'intendance un petit peu du fonds, si vous voulez.
L'administration. Oui. Alors il faut dire qu'à Jersey, c'est 60% de la vie économique qui dépend du secteur de la finance. C'est assez énorme. Pour une petite île, on trouve combien ? 30 banques, 230 fonds d'investissement ?
Oui, alors c'est sans doute 60%, c'est peut-être beaucoup plus que ça en réalité, puisque toute l'économie tourne grâce à ça. Voilà.
Alors vous administrez donc ces fonds, et puis il y a un événement qui va être déterminant pour vous, c'est en 2007, c'est le rachat de Samsonite.
Oui, alors
Samsonite, c'est les valises.
C'est les valises. Samsonite, c'est en France, c'est le site d'Hénin-Beaumont qui a fermé avec des centaines de personnes qui se sont retrouvées à la rue. Et donc en 2007, un de mes supérieurs qui se trouve juste à côté de moi, à 30 cm, signe les documents de rachat de Samsonite. Alors c'est Mitt Romney qui s'est présenté ensuite plus tard aux élections aux États-Unis en 2012, qui fait une culbute, je ne sais plus exactement, mais je crois de 8 fois l'argent qu'il investit dans Samsonite. Donc ça m'interpelle et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis décidé à rentrer en relation avec la DGSE.
Et très simplement, vous allez sur leur site internet, vous leur envoyez un courriel.
C'est ça. Donc je reçois au bout de quelques semaines une lettre à Jersey qui m'est adressée en me demandant de remplir un CV, de leur envoyer un CV et une lettre de motivation. Je me dis à l'époque ça va être trop long. L'administration française est trop lente, il faut que j'aille plus vite. Donc j'ai regardé ensuite sur internet, j'ai essayé de chercher des numéros de téléphone et j'ai appelé tout simplement les états-majors à Paris.
Et là, on va vous recontacter et vous donner rendez-vous à Paris. Il y a un véritable jeu de piste qui va se dérouler.
Donc oui, il y a un jeu de piste qui s'instaure. On m'envoie plusieurs mails pendant une heure et en fait, on me fait circuler dans Paris, je pense, pour voir si j'étais suivi. Donc c'est un jeu de piste.
Oui, on vous donne rendez-vous dans un cybercafé dans le 18e.
Oui.
Et puis là, on vous fait comprendre qu'il faut que vous alliez dans un autre quartier. Donc, on vous fait circuler pour vous observer. Quoi.
Oui.
C'est ce qu'on comprend.
Hein. Effectivement. Et aussi, sur la fin, donc le dernier rendez-vous, c'est devant Notre-Dame de Lorette. Et je vois, en sortant du métro, qu'il y a effectivement des personnes qui surveillent l'endroit et que je suis suivi.
Voilà. Alors vous rencontrerez finalement un certain Luc, oui, qui va devenir votre contact, votre référent, et vous allez travailler pour la DGSE. Alors à partir de là, vous faites quoi ? Qu'est-ce que vous transmettez comme information de Jersey à la DGSE ?
Alors il y avait trois types de choses qui les intéressaient. Déjà, ils me donnaient une liste, qu'ils appellent la liste de courses, des choses extrêmement précises et très techniques. Ça peut être sur des oligarques russes, ça peut être sur des milliardaires américains, des entreprises, des multinationales étrangères ou des régulateurs européens. Ensuite, c'était tout ce que je pouvais trouver. J'avais carte blanche sur des informations qui pouvaient aider potentiellement à préserver les entreprises françaises. Et la troisième chose, c'était de trouver des profils de gens qui pouvaient intéresser tout simplement la DGSE, que la DGSE ensuite allait recruter. Voilà.
Ouais. Alors vous faites comment ? Vous photocopiez des documents ? Vous récupérez des clés USB ? Vous faites comment ?
Alors c'est un ensemble de pratiques. Déjà au sein de Mourant, donc l'énorme cabinet d'avocats pour lequel je travaillais, c'est beaucoup de photocopies, énormément. Et ensuite, pour prendre les informations de toutes les autres dans les autres banques, les autres cabinets d'avocats de l'île, les fiduciaires, c'est tout simplement être le plus sociable possible, être invité en permanence à des soirées, dans les restaurants, dans les pubs, les boîtes de nuit. Et il faut savoir que Jersey est un monde extrêmement fermé, c'est une île. C'est, je dirais, des gens de 30 ans qui travaillent, qui sont célibataires sans enfants, qui sortent énormément. Et ben, ils vous donnent beaucoup d'informations que vous recoupez et que vous donnez ensuite à la DGSE.
Alors ça, c'est à Jersey. Oui. Ensuite, on va vous proposer un poste au Luxembourg.
Oui.
Vous allez y aller et vous continuez.
Oui, pareil. Je fais le même travail.
Vous dites que c'est encore plus facile qu'à Jersey.
Oui, parce qu'à Jersey, à la fin, disons la dernière année où j'y étais, il y avait beaucoup plus de procédures. Rien que pour rentrer dans les bureaux, il faut un pass, il y a des caméras qui sont installées, on est de plus en plus... Il y a une sécurité qui augmente de jour en jour. Alors qu'au Luxembourg, c'est beaucoup plus amateur en termes de sécurité.
Ce qui est quand même assez étonnant. Hein.
Oui, oui. En fait, c'est vrai que c'est un paradoxe. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les banques ou les cabinets d'avocats, pour beaucoup, sont assez mal organisés à l'intérieur. Alors, on a l'image extérieure que c'est lisse, que c'est comme on a un beau bâtiment, un building, etc., avec des gens en costard. Et en réalité, c'est pas si bien administré et organisé à l'intérieur.
Alors, vous donnez quelques exemples. Par exemple, la France négocie des rafales en Inde.
Oui.
Et la DGSE veut connaître le montant des éventuelles rétrocommissions qui ont été proposées par les Anglais, eux, et leur circuit offshore, pour pouvoir proposer, nous, la France,
des rétrocommissions
ouais. au prix le plus juste possible.
Oui, là, c'est le genre de demande oui, que je pouvais avoir. Donc, trouver le schéma de rétrocommission offshore ou qui passait par l'Inde, en l'espèce, essayer de trouver des ramifications pour que la DGSE l'État ensuite puisse faire une meilleure offre.
Mais là, vous faites finalement ce que vous reprochiez à Mitt Romney, c'est-à-dire vous donner à l'État français et à des sociétés multinationales françaises la possibilité d'offrir des commissions et de tricher sur des marchés.
Exactement, c'est pour ça que, suite à ce type d'opération, il y a une sorte de frustration qui a grandi en moi en me disant que finalement, ça ne servait pas les intérêts de mes concitoyens, que ça servait d'autres multinationales et d'autres milliardaires français. Et donc, c'est pour ça que fin 2011, décembre 2011, j'ai quitté Luxembourg et la finance et la DGSE pour aider directement, à mon sens, les salariés, les syndicats, groupes de salariés, pour les aider dans leur lutte.
Oui, vous devenez consultant pour les ONG, pour les syndicats. C'est ce que vous faites, d'ailleurs, c'est votre activité actuelle. Alors, l'enquête qu'on a diffusée tout à l'heure, juste avant que vous nous parliez, montre bien comment les structures qui pratiquent l'évasion fiscale s'adaptent en permanence. Vous qui avez travaillé au cœur de ces structures, est-ce que vous pensez qu'on peut s'attaquer à l'évasion fiscale ou que c'est un combat perdu d'avance? Autrement dit, ce que disent certains, c'est tant qu'il y aura des impôts, il y aura des fraudeurs, quoi.
Je pense que c'est avant tout politique. Je pense qu'on peut éviter vraiment l'évasion fiscale. Que c'est aussi à nous, en tant que citoyens ou en tant que groupement, ONG, association, de demander des comptes à l'État, à Bercy, aux multinationales, aux milliardaires. Et jusqu'à maintenant, on n'avait pas l'habitude de demander des comptes aux puissants. Là, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à le faire. Et je suis assez optimiste. Je pense que c'est la solution. C'est apprendre à demander des comptes et faire émerger des changements.
Bon, on va terminer cette émission sur une note d'optimisme. Merci Maxime Renahi. Alors,
prie.
Je précise que votre livre, qui s'appelle « Là où est l'argent », est publié aux éditions Les Arènes.